Le monde décodé. Interview de personnages extraordinaires. Pars avec nous à la découverte de ton monde, de son histoire, de ses enjeux.
Bonjour, je suis ravie de te retrouver. D'autant que nous avons encore énormément à explorer sur les Romains. Après tout, c'est la civilisation qui aura le plus compté vu sa domination sur un territoire extrêmement large pendant plusieurs siècles. Donc il mérite bien plusieurs podcasts, non? Pour rappel, nous avons vu que la ville de Rome a été fondée en -753 en tant que monarchie et qu'après ses rois, vers environ -500, elle s'est transformée en république. Sous cette république, la ville de Rome a considérablement étendu son influence dans tout le bassin méditerranéen et est devenue la puissance principale non seulement de la région, mais du monde entier. Mais la République romaine, qui au départ représentait un idéal de la démocratie, va être menacée par des conflits internes. Le grand homme politique et écrivain Cicéron nous a expliqué que depuis -80, Rome doit faire face à des guerres civiles et à des révoltes internes, y compris des soulèvements d'esclaves. Il nous a fait part de son inquiétude pour la survie de la République. Voyons si ces inquiétudes étaient fondées. Si tu te souviens bien, Crassus, l'homme le plus riche de Rome, a réussi à vaincre Spartacus, le gladiateur à la tête de la révolte des esclaves. Mais en rage parce que le général Pompée, un autre puissant général, le conquérant de l'Espagne, a réussi à lui voler la vedette auprès du Sénat et du peuple romain. C'est dans ce contexte de tension importante entre ces deux puissants généraux qu'un troisième homme va réussir à s'imposer. Il s'agit de Jules César. À cette époque, Jules César a déjà démontré ses compétences politiques et militaires lors de campagnes en Espagne et en Asie. Il est rusé et ambitieux et voudrait devenir un des deux consuls du Sénat romain. Le titre de consul représente le plus haut poste politique de la République romaine, puisqu'à eux deux, les deux consuls étaient à la tête de l'exécutif romain, convoquaient et présidaient le Sénat, proposaient des lois et pouvaient même se retrouver à la tête de l'armée lors de campagnes militaires. Pour se faire élire consul, César parie sur la rivalité entre Crassus, l'homme le plus riche de Rome, et Pompée, le grand général, et leur propose une alliance. Cette alliance consiste à se faire élire César comme consul, grâce au soutien de Crassus et de Pompée. Et en retour, à ce que César veille à ce que le gouvernement ne prenne aucune mesure contraire aux objectifs de Crassus et de Pompée. Cette alliance serait par ailleurs scellée par le mariage de la fille de César, Julia, avec Pompée. Et c'est exactement comme cela que les choses vont se passer. César réussit son pari et se fait élire consul en -59.
Congratulations, you won!
Il promulgue entre autres des réformes foncières qui attribuent des terres aux vétérans de Pompée et modifient le code des impôts, amadouant ainsi les partisans de Crassus. Tout se passe donc suivant les plans de César. Le consulat ne durait qu'un an, mais était traditionnellement suivi d'un proconsulat, à savoir le gouvernement militaire d'une ou plusieurs provinces. César, qui a pour modèle Alexandre le Grand, voit cela comme une opportunité d'ajouter la seule gloire qui lui manque, la gloire militaire. Il est donc ravi de se retrouver en charge du gouvernement militaire de la Gaule et la Narbonnaise, région du sud de la France. Il part en campagne et combat les Helvètes, les Germains et les Belges, et en -56 réussit l'exploit de faire passer toute la Gaule sous domination romaine. Le voilà désormais considéré comme un grand chef militaire, l'égal de Pompée, son rival à Rome. Mais il ne s'arrête pas là. Ses légions lui sont totalement dévouées. Et de -55 à -53, il ravage les Flandres, passe la Manche pour se mesurer aux Bretons. Continue sans cesse ses conquêtes. Jusqu'à ce qu'il se retrouve confronté à une révolte des Gaulois, menée par Vercingétorix. C'est une révolte importante, et Vercingétorix et ses hommes sont 6 fois plus nombreux que César et ses troupes. Mais César est un fin stratège et va l'emporter par la ruse. Il va faire semblant de se retirer et va finir par écraser les Gaulois. En -50, au bout de 8 années de guerre, il a réussi à unifier toute la Gaule et à la transformer en une province romaine pacifiée. César a réussi son pari. Il est maintenant aussi considéré comme un grand chef militaire et un stratège génial. Par ailleurs, c'est un politicien hors pair et un brillant orateur. Il est parfaitement éduqué et il est infiniment séduisant et populaire. Il a 42 ans et au sommet de sa gloire.
Mission successful.
Mais c'est alors que la tragédie frappe. Sa fille Julia meurt en -54 et l'année suivante, son allié Crassus est tué lors d'un combat contre les Parthes, brisant ainsi le puissant triumvirat. Ne s'étant jamais vraiment apprécié, Pompée et César se retrouvent soudain face à face et vont s'affronter. Comme nous allons le voir, César va sortir grand vainqueur de ce duel et se retrouver seul au pouvoir pour une longue période. Alors qu'au début il œuvre pour la République, il va progressivement changer les règles du jeu et va causer la chute de la République, ouvrant la voie au premier empereur romain. Dans les faits, ce ne sera pas lui. Il ne sera jamais empereur de Rome, mais vous allez voir. Je propose qu'on le laisse nous raconter sa victoire sur Pompée. Bonjour Jules César, je suis extrêmement impressionnée de faire votre connaissance. J'ai tellement entendu parler de vous.
Bonjour à toi, Léa.
Votre affrontement avec le général Pompée a été une période dure pour la République romaine, qui était pourtant en ce moment-là dans une phase d'expansion et de conquête. Pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ?
Après avoir été consul à Rome, j'ai reçu du Sénat le titre de proconsul de la Gaule, et à ce titre, j'avais le commandement militaire et administratif de la région. Je pense que cela arrangeait bien Pompée de m'éloigner de Rome, et jamais il n'avait imaginé que je rencontrerais les formidables succès militaires que nous avons connus. Notre conquête de la Gaule a dépassé les attentes de tous, et a été une formidable source de richesse pour Rome. Le peuple romain en était conscient, et c'est ce qui m'a valu une célébrité et gloire inégalées.
Vous avez donc combattu pendant 8 années en Gaule ?
C'est exact. Et au bout de ces 8 années, et une fois la Gaule conquise, je voulais rentrer à Rome. Mais ce filou de Pompée, se rendant compte qu'il ne serait plus le maître de Rome, a réussi à monter le Sénat contre moi. Il a fait croire au Sénat que j'étais une menace pour la République, que j'allais utiliser mon pouvoir militaire et ma fortune pour renverser le Sénat et la République, et que dès lors, il fallait me déclarer hors la loi et me poursuivre en justice. Quels ingrats !
Donc vous êtes en Gaule avec vos hommes, et Rome vous demande de laisser vos hommes en Gaule et de rentrer vous faire juger par le Sénat et Pompée à Rome, c'est bien cela ?
C'est cela. Autant te dire que c'était signé mon arrêt de mort. J'ai donc décidé qu'il en serait autrement. Il ne me laissait pas le choix. Il ne me restait qu'à marcher sur Rome avec mon armée, qui m'était tout entière dévouée. Mais je devais donc franchir le Rubicon, et dès lors vraiment devenir un hors-la-loi.
Franchir le Rubicon, cela signifie quoi au juste ?
Le Rubicon est un fleuve qui sert de frontière entre la Gaule et le territoire italien, et qui a un rôle symbolique dans le droit romain. Aucun général ne peut le franchir avec son armée sans l'autorisation du Sénat. C'est une mesure qui a été édictée pour protéger Rome contre les menaces internes. Mais là, pour moi le choix était simple. C'était mourir ou marcher sur Rome. Alea iacta est.
Pour mes auditeurs, alea iacta est signifie « le sort en est jeté », phrase que César a prononcée en franchissant le Rubicon. Cet épisode restera dans l'histoire et dans notre vocabulaire. Franchir le Rubicon signifie de nos jours dépasser une limite inacceptable.
C'était donc formellement le début d'une nouvelle guerre civile. Nous fûmes vite à Rome, et Pompée et le Sénat ayant fui, nous nous en emparèrent facilement. Je fis nommer un nouveau Sénat, qui me nomma consul, et puis dictateur.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le titre de dictateur à Rome ?
C'est un pouvoir extraordinaire octroyé par le Sénat en période de crise ou d'urgence. Il est limité dans le temps et permet de prendre des décisions sans l'approbation du Sénat, donnant donc un pouvoir absolu sur Rome.
Ok, je comprends. Quand la guerre fait rage, il faut agir vite et être agile. D'où ce pouvoir spécial. Et qu'avez-vous fait ?
Je ne voulais laisser aucune chance à ce scélérat de Pompée de me nuire à nouveau. Je n'eus aucun mal à convaincre mes hommes de poursuivre ce chien fuyant. Nous partîmes donc sur ses traces en Grèce et lui infligeâmes une défaite cuisante, malgré qu'ils étaient bien plus nombreux que nous. Mais Pompée ne s'arrêta pas là. Il poursuivit sa fuite vers l'Égypte.
L'Égypte ? Pourquoi l'Égypte ?
Quelques années plus tôt, Pompée avait remis sur le trône de cette province romaine la dynastie des Ptolémées. Il pensait donc y trouver un allié. Grossière erreur. Leur jeune pharaon, voyant le vent tourner en ma faveur, voulut s'attirer mes grâces et fit trancher la tête de Pompée pour me la livrer.
Oh mon Dieu ! Quelle horreur !
Oui, quelle horreur ! Bien sûr, je voulais la peau de Pompée. Mais ce n'était pas à ce jeune pharaon de s'immiscer dans nos affaires et de faire exécuter un général romain. Quelle grossière erreur de jugement ! Ça ne m'a pas du tout rapproché de lui. Cela m'a juste montré que je ne pouvais pas lui faire confiance. J'étais furieux.
Qu'avez-vous fait ensuite ?
Je me suis emparé du palais royal, et j'ai fait mettre le pharaon et sa sœur et jeune épouse Cléopâtre sous bonne garde.
Cléopâtre ? La Cléopâtre ?
Oui, la Cléopâtre qui est maintenant pharaone d'Égypte. Je suis au final resté 9 mois en Égypte, d'abord pour en découdre avec les troupes égyptiennes, qui n'acceptaient pas la prise du palais par Rome. Ensuite parce qu'il y faisait bon vivre. J'ai appris à connaître Cléopâtre, et je me suis rendu compte que c'était vraiment une femme extraordinaire. Nous avons d'ailleurs appris à nous connaître de manière assez intime, et avons même eu un fils, notre petit Césarion. Ce fut vraiment une période formidable. Mais, le devoir m'attendait à Rome, j'ai donc décidé de rentrer. J'aurais pu faire de l'Égypte une province romaine, mais j'ai plutôt remis Cléopâtre sur le trône, lui confiant ainsi le royaume d'Égypte.
Et vous voilà de retour à Rome.
Me voici revenu à Rome en effet. Et maintenant que la guerre civile est apaisée, et que l'Égypte est désormais un allié puissant, j'ai plein d'idées de réformes à mener à Rome. Et puis, nous aurons encore quelques campagnes militaires à mener pour continuer à asseoir la suprématie de Rome dans la région.
Merci César pour ce récit passionnant de vos conquêtes et de votre tour à Rome.
Avec plaisir Léa. N'hésite pas à revenir me voir à Rome. Peut-être l'année prochaine si tu veux faire la connaissance de Cléopâtre. Je compte la faire venir ici même, afin que le peuple romain puisse constater par lui-même la puissance de notre nouvel allié. Et puis cela me fera plaisir de voir mon petit Césarion et Cléopâtre.
Pour mes auditeurs, en tant que dictateur, rôle qui lui avait été officiellement accordé par le Sénat pour 10 ans, César fit du bon travail. Il annula par exemple la dette, changea le calendrier et la monnaie, et accorda la citoyenneté aux résidents des régions éloignées de la République romaine. Mais il prit goût à ce pouvoir absolu, et ne voulut plus avoir à composer avec le Sénat. Il décida donc de se faire nommer dictateur à vie en -44, ce qui changea un peu son image d'homme du peuple. Et ce ne fut clairement pas du goût de tous. Moins de 2 mois plus tard, plusieurs sénateurs menés par Brutus, son fils adoptif, poignardèrent César à mort. Celui qui avait prononcé la célèbre phrase « Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu » n'était plus et s'éteignait à l'âge de 55 ans. Quand il se fit poignarder, il prononça une autre phrase qui restera à la postérité. Il dit à son fils adoptif « Tu quoque fili, toi aussi mon fils ». Les craintes de Cicéron étaient donc justifiées. L'idéal de la démocratie, qu'était la République romaine, avait du plomb dans l'aile et s'était transformé en dictature. On verra que cela ouvrit la voie au premier empereur romain. Mais ce sera pour notre prochain podcast.
Alors à dans 2 semaines!